There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Pot Pourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmalade?
Bonjour, ici Peter Biro, correspondant spécial, Popourri Show. CIUT-FM and Potpourri Show offer the kind of wide-ranging coverage of the important cultural, social, and political issues of our time, not available on any other broadcast. Ce type de diffusion a besoin de votre soutien. Je suis tellement fier de faire partie de cette émission stimulante. Alors, je vous invite à aider Potpourri Show à rester en onde et à nous écouter chaque dimanche sur CIUT-FM.
La radio communautaire à temps plein, à son meilleur, 24/7, 365 jours par année. Surfez sur les ondes de CUT 89,5 FM. Aidez-nous à atteindre notre objectif de $100,000 en faisant un don aujourd'hui à www.cut.fm. Cliquez sur le bouton « Donate » pour faire un don et soutenez le son de votre ville.
À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, nous exhortons tous les Canadiens et Canadiennes à se recueillir et à se souvenir de tout ce que les anciens combattants ont sacrifié pour nous. N'oublions jamais.
Le souvenir est fondamental pour définir d'où je viens, qui je suis et où je m'en vais.
I respect Remembrance Day.
Because it's such an important date and such an important time.
C'est important de se souvenir.
Not just one single day, November 11.
Le 11 du 11e mois à 11h.
I think it's more than just saying thank you for your service.
It's also about the human side and not just the faceless soldier side.
Remembrance Day, I just think about
Passchendaele,
Omaha Beach,
Juno Beach.
Ce qu'on a fait pour les autres pays.
400,000 people took part in D-Day.
La guerre de Corée.
Hill 187.
Stabilization in Hong Kong.
Qu'est-ce qui est arrivé en Haïti?
The children of Afghanistan.
The genocide that lasted 100 days.
For me, it's to remember the fallen.
Toutes les camarades avec qui j'ai combattu.
I remember my husband, Corporal Bryce Keller.
J'ai le capitaine Nicolas Godard dans mon cœur.
Jean-Guy, mon ami.
Caporal chef Byron Dreff.
The families and the civilians and the people who have to deal with war in the places we've been.
I remember World War I veterans when I was growing up.
I remember Chinese Canadian in World War II.
Ces gens-là ont fait des choses qui sont extraordinaires.
They're the heroes. They gave their life.
La raison pourquoi je suis ici, la raison pourquoi je porte cet uniforme, vient de ce qui a été fait par mes prédécesseurs.
We have what we have in Canada today, and thank to our forefathers who have gone before us.
I'm not a hero, I'm a survivor.
Pour ces gens-là, ça vaut la peine de se souvenir, puis de montrer du respect envers eux.
Le souvenir continue de me propulser, de me motiver et de me convaincre d'accomplir la mission qui m'est assignée.
The French have a very different relationship with work than the rest of us, right? In that they don't give a shit about it. Which honestly I found inspiring. Yeah. I feel like a lot of us have become a little too attached to our work, you know? We identify with our work. Have you ever asked somebody just randomly, you'd be like, hey, tell me about yourself. And they'd be like, well, I'm an architect. And tell me about yourself. Well, you know, I own a hair salon. And tell me about yourself. And people will tell you about what they do. You know, it's become the thing that people focus on. The French don't do that. You'll never meet a French person who does that. You go up to a French person, you'd be like, excuse me, what do you do? Be like, oh, me, I go for walks with my friends and... You know, I like to, eat good food. And you're like, no. What do you do for a living? It's like, for a living. Pardon. Okay, for a living. Okay, no, I breathe. And, of course, I have to make love, you know.
Et oui, ce dimanche, Potpourri Show, en partenariat avec Ciné Franco, présente la 28e édition du Festival Grand Public, qui se tiendra du 7 au 16 novembre 2025 au cinéma Carlton, au cœur de la ville de Toronto. Cette année, le thème « Les facettes de l'humanité » prend forme grâce au lien de visionnage que nous font parvenir les distributeurs de France, de Suisse, de Belgique, du Québec, de l'Ontario et d'ailleurs. Du 7 au 16 novembre, découvrez nos coups de cœur sur CUT89.5 FM et sur nos réseaux sociaux. Participez, devenez membre de l'unique et l'incontournable rendez-vous de la francophonie et courez la chance de gagner des places au Festival Ciné Franco. Faites un don à Popourri Show en direct sur www.cut.fm et cliquez sur « Donate » et veuillez nous écrire immédiatement à popourri@cut.fm. Aidez-nous à garder l'antenne. Du 7 au 16 novembre, célébrons le 7e art et la langue française avec Popourri Show et la 28e édition de Ciné Franco, plus vibrante que jamais. Et je vous donne rendez-vous lundi 10 novembre à 18h pour la projection du film La Pivoleuse, un film dramatique français réalisé par Robert Guédiguian, sorti en 2025. La Pivoleuse, c'est le nom du magasin de musique où Maria a loué un piano pour son petit-fils Nicolas. Or, la sexagénaire qui fait les courses et le ménage pour des personnes âgées n'en a pas les moyens, pas plus que son mari Bruno, qui reçoit une maigre pension et flamble le tout en jouant au bistrot du coin. Alors, que va faire cette vieille dame pour payer les cours du piano de son petit-fils? La réponse à retrouver demain, 10 novembre à 18h au Cinéma Carlton. La Pivoleuse, une présentation de Ciné Franco. Bonne annonce.
Votre courrier.
Et les bulots, ils sont où?
Ben, ils sont là. Vous pourriez me signer des chèques d'avance? Je me suis servi du dernier. J'ai fait toutes les courses. Merci, ma belle. Je mets la monnaie dans le compotier. Combien reste sur le compte?
Il n'y a plus rien.
Tu as recommencé à jouer? C'est sûr, il va l'avoir, son concours.
Tous les autres élèves, ils prennent en plus des cours particuliers, alors on ne pourra jamais se payer ça.
J'ai appelé son professeur de piano au conservatoire. Il est d'accord pour lui donner des cours particuliers.
Mais tu le payes comment?
J'ai pris du travail en plus.
Oh, tiens.
Bonjour, papa.
Tu veux prendre l'apéritif?
J'ai l'habitude de m'occuper de ses affaires. Est-ce que vous pouvez me dire pour qui il loue ce piano?
Oui, bien sûr.
Madame Jourdan?
C'est moi.
Ce que je veux, c'est savoir pourquoi mon père loue ce piano pour vous.
T'as recommencé comme avant?
C'est pour le petit.
Qu'est-ce que tu lui donnes, à part le piano?
Je vous demande de ne pas porter plainte. On rembourse à toi, votre père.
Cette femme, faut l'empêcher de nuire. Peut-être qu'elle fait ça chez d'autres vieux.
Tu mets plus les pieds chez Moreau. Fais-toi remplacer, raconte n'importe quoi.
J'aimerais que tu arrêtes de travailler chez les hommes qui sont seuls.
C'est vraiment bête, ce que tu dis. Mais ça me touche beaucoup.
Et votre petit-fils, le piano, il progresse?
Oui, oui. J'y prends des cours particuliers à Avenue du Prado.
Il est jeune. Il a le temps.
Pourquoi les médias français sont-ils tombés si bas, au point de ne plus informer, mais de manipuler? Pourquoi 90% des chaînes de télé, radio et journaux appartiennent aujourd'hui à seulement 9 milliardaires? Qui décide vraiment de ce qu'on regarde, de ce qu'on croit et de ce qu'on doit penser? Pourquoi les chaînes publiques, censées garantir une information libre et neutre, sont aujourd'hui vidées de leur sens? Pendant que les chaînes privées explosent et imposent leur vision du monde, pourquoi chaque jour on voit les mêmes invités, les mêmes experts, répéter les mêmes discours? Pourquoi les sujets qui dérangent disparaissent des plateaux, pendant qu'on nous gave de divertissements inutiles? Et qui finance tout ça, vraiment? Pourquoi les grands fonds privés, les multinationales et même des lobbies investissent par des millions dans la presse et les médias? Est-ce encore de l'information? Ou juste une stratégie d'influence? Pourquoi ceux qui possèdent mal les médias sont aussi ceux qui contrôlent la politique et l'économie? Peut-on encore parler de liberté de la presse? Ou a-t-on basculé dans la propagande moderne? Et si le vrai danger, c'était qu'on ne nous informe plus, mais qu'on nous formate?
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarii. Certes,
sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs. Pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutif, la langue vie, révolte dense. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rapport à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Mesdames, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver, où que vous soyez. De gauche, du centre, de la droite ou de nulle part, je vous souhaite la bienvenue. Les ingénieurs du son aujourd'hui, responsables de la mise en onde, Mike Tadros et DJ Devera. Production et animation Eric Adair, qui vous accompagne depuis 40 ans. Je lance un appel à votre générosité dans le cadre de notre campagne de financement automnal du 17 au 23 novembre. Deux fois par année, la radio fait appel à des donateurs, des donatrices et ses partenaires pour sa survie. Pour y contribuer, c'est très simple, comme bonjour, cliquez sur le lien sur notre site web popourichaud.com ou sur www.cut.fm et cliquez sur Donate et veuillez indiquer votre don à Popourichaud. Merci de votre appui et de votre fidélité. De 11h à 13h, Popourichaud sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Vient d'être relancé sur la recette des petits pâtés. Chacun a sa définition selon ses goûts et sa région. Les goûts c'est pas vraiment discutable, surtout pour les arts de la table. Ils font pas qu'on y trouve de gagnant. M'amusons-nous pour un instant. Le combat vient de commencer, nos grands-mères mettent leur tablier. Chacune y va de sa recette, santé chaudron et cassolette. Elles vont tenter de nous séduire, avec les plats qu'elles vont produire. L'odeur et les présentations, du repas pour le réveillon. D'abord, quelle viande elles vont choisir, du bœuf, du porc ou du gibier. Ensuite, quelle croûte elles vont retirer, ou garde la pâte ou mélanger. J'ai longtemps eu des confusions, sur la tourtière selon les régions. Dans son doute en démystifiant, ce qui constitue ce plat d'antan. Dans le coin gauche, on a Fernand qui défend le pâté à viande. La recette la plus simplifiée que l'on appelle petit pâté. La viande hachée, assaisonnée dans une pâte qu'on vient décorer. Voilà, c'est simple mais ça goûte bon, c'est la base de nos traditions. Dans le coin droit, on a Ginette, chanteuse experte en opérette. Elle cuisine toujours en chantant au grand désespoir de Roland. Elle, sa recette préférée, c'est la tourtière du lac Saint-Jean. Sa grand-mère lui avait donné le secret de son assaisonnement. Rita, elle prépare une cipaille telle qu'on le fait dans l'Est du Québec. C'est la plus longue à préparer, la plus savoureuse selon moi. Une portion de pâte généreuse, entrecoupée de viande mélangée, avec quelques patates en cubes, des oignons et quelques légumes. Le folklore des tourtes à la viande qui connaît la plus grande demande. On en demande par gourmandise, c'est tellement bon faut qu'on se le dise. Faut avouer que c'est la meilleure, désolé pour les gens d'ailleurs. Avouons-le bien différent d'une simple tarte au bœuf d'antan. D'autres qui ajoutent du ketchup, d'autres qui mettent de la relish aux fruits. Les plus puristes, la mandature de quel aura été servie. Chacun ses propres traditions, et comme le dirait le dicton, plus il y en a de temps, plus c'est meilleur, et plus ça déborde de savoir. Amis de moutard, venez trancher entre les trois recettes présentées. C'est vous qui ferez le grand gagnant des recettes de nos grands-mamans. On a dansé en se mélangeant, ce qui fait qu'on a du bon temps. N'oubliez pas de remercier vos grands-mères pour les petits pâtés. la recette choisie. Elles y ont mis plein d'amour aussi. Même si c'était pas indiqué, c'est ce qui fait qu'on aime les manger.
Et oui, c'est la saison des fêtes et c'est une découverte que nous proposent nos amis chez De La Communication, à qui nous disons bien le bonjour. Et oui, le 7 novembre est sorti l'album Le Temps des Fêtes, volume 2, de Guillaume Leclerc, né à la Pocatière au Québec, auteur, compositeur, interprète et concepteur, créateur québécois. Il a travaillé dans le domaine du spectacle pendant de nombreuses années avant de lancer sa carrière d'artiste. Il est connu pour ses histoires touchantes et cocasses, ainsi que pour ses albums comme le micro-album Le Grand Voyage, sorti en 2021, et son premier album complet, Partir N'importe Où, en 2023. Deuxième volume pour Les Temps des Fêtes de Guillaume Leclerc, que nous entendrons tout au long du mois, jusqu'au Temps des Fêtes, bien sûr, de belles histoires, du Temps des Fêtes, des premières neiges, jusqu'au premier jour de l'an, à retrouver sur notre site web popourichaud.com. Au menu aujourd'hui, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès de mon mentor, mon professeur Pierre Dufaux, grand journaliste sportif de Radio-Canada et cofondateur de l'école de radio et de télévision Promédia, qui a formé plusieurs générations de communicateurs. Sa rigueur et sa discipline demeurent une source d'inspiration. Son esprit sera toujours présent et aujourd'hui je lui rends hommage et j'espère que vous saurez apprécier ce géant de la radio qui a laissé ses traces et qui a marqué le monde des médias au Québec et au Canada. L'ouverture de la 28e édition de Ciné Franco a connu un franc succès avec le film « Et maintenant ?». Et oui, la fête se poursuit jusqu'au 16 novembre au cinéma Carlton et tout au long de l'émission, nous mettrons les projecteurs sur nos coups de cœur. Vous avez fait un don, alors vous souhaitez gagner des billets pour aller voir Ciné Franco? Écrivez-moi immédiatement à popourri@cut.fm. Retrouvez tous les films à l'affiche sur www.cinefranco.com ou popourrishow.com. Nous ferons escale à Paris avec deux grands prix littéraires cette semaine. La Mauricienne Natacha Apana remporte le prix féminin du roman 2025 pour La Nuit au cœur et le prix Goncourt 2025 attribué à Laurent Mauvignier pour La Maison vide.
Sont là pour m'étouffer de larmes de fleurs, de baisers. Oui, je revois les beaux matins d'avril, nous vivions sous les toits, tout en haut de la ville. Passer sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir, j'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard, pour quelle raison ce soir, passez-vous sans me voir. Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir un peu d'espoir? Oh, si donné d'espoir. Adieu, bonsoir.
Pierre Nadeau, pour moi, c'est le summum pour les connaissances, l'intelligence, la crédibilité, la voix. Oh, quand Pierre Nadeau parlait, on écoutait. Hein? Bon, intransigeant, oui. Pierre Nadeau, les hommes forts ne sont pas toujours gentils. Ils imposent leur volonté parce qu'ils sont tellement certains d'avoir raison. Et Pierre, c'en était un, mais il fallait savoir comment le prendre. Il avait du respect pour tout le monde, mais il fallait pas essayer de les faire changer les idées. C'était difficile. C'était un homme extrêmement compétent.
Le journalisme sportif québécois est en deuil. Pierre Dufaux, voix incontournable de plusieurs générations d'amateurs de sport, s'est éteint dans la nuit du 31 octobre à l'âge de 90 ans. Pierre Dufaux, que j'ai bien connu lors de mes études à Promédia, en 1981, et oui, Pierre Dufaux, une voix marquante des Jeux olympiques et football canadien. Né à Ottawa le 5 novembre 1934, Pierre Dufaux a d'abord fait ses études, ou ses débuts plutôt, à la station CKCH à Hull, avant de se joindre à Radio-Canada Ottawa en 1964. Ce passage marquera le début d'une carrière exceptionnelle, où il deviendra rapidement l'un des piliers de l'information sportive francophone au pays. En 1972, il prend pleinement sa place comme figure de proue du service des sports de Radio-Canada. Son talent, sa rigueur et son ton juste le mèneront à couvrir pas moins de 12 Jeux olympiques, notamment un repère dans la couverture des épreuves de natation. Pour de nombreux téléspectateurs, sa voix a accompagné les exploits les plus marquants des athlètes canadiens sur la scène internationale. Pierre Dufaux a également marqué l'histoire du football canadien. Entre 1972 et 1988, il a incarné l'une des voix phares de ce sport qu'il affectionnait profondément. Et sa contribution à sa popularisation lui a d'ailleurs valu une place au temple de la renommée du football canadien en 2001. Une reconnaissance pleinement méritée pour un communicateur qui ne faisait jamais les choses à moitié. Au fil de sa carrière, il a aussi occupé plusieurs rôles à l'antenne, notamment à la présentation des nouvelles sportives de fin de soirée, jusqu'à son départ à la retraite en 1996. Ses collègues se souviennent de lui comme d'un mentor généreux et d'un professionnel dont l'intégrité a toujours été un guide. Au-delà du micro et des caméras, Pierre Dufaux a contribué à former la relève en cofondant en 1981 l'école Promédia avec Michel Germain. Une institution qui a permis de former des centaines de communicateurs, journalistes et animateurs qui poursuivent aujourd'hui son œuvre. Son départ laisse un grand vide dans le paysage médiatique québécois, mais son héritage lui demeure immense. Il a façonné une façon de raconter le sport avec bienveillance, respect et une passion contagieuse. Les générations futures continueront de marcher dans ses traces, inspirées par ce géant de la communication. Je présente mes plus sincères condoléances à toute sa famille, ses proches, ses collègues de Radio-Canada et les nombreux promédiennes et promédias. Eh oui, le monde des médias perd un champion de la langue française, un guide de la relève. Pour vous aider à mieux connaître ce personnage, à ce pilier dans le monde des médias, je vous propose, mesdames, messieurs, un petit montage, des extraits, des temps forts au fil de sa carrière. Il était tellement connu et apprécié, plusieurs comédiens, imitateurs, y compris le groupe RBO, Rocky Belles Oreilles, du Québec, entrevues, reportages et humour pour rendre hommage à un géant de la radio. Pierre Dufaux,
ancien journaliste de sport à Radio-Canada et cofondateur de l'école de radio et de télévision Promédia. Merci, Monsieur Dufaux.
Voici Pierre Dufaux, lecteur de nouvelles, journaliste sportif émérite et formateur de la relève médiatique québécoise.
Vous avez enseigné à combien de personnes durant ces années-là?
Certainement, je dirais à peu près quoi, 100 par année?
Mm-hmm.
1200, ouais, ça me fait à peu près ça, entre 1200 et 1500.
Et vous?
C'est beaucoup mieux qu'avant, je trouve que TVA, ou plutôt LCN, est plus rapide sur la gâchette que RDI.
Ah oui?
LCN.
Ce que je remarque surtout, c'est que les femmes font la barbe aux garçons. Pas parce que les garçons sont pas bons, là.
On a
d'excellents journalistes encore. Elles possèdent des qualités que les hommes n'ont pas encore apprises. La spontanéité, la chaleur.
Que pense-t-il?
Bonjour les jeunes, bonjour mesdames, messieurs. Place au football aujourd'hui, aux héros du samedi. Nous sommes à l'école Vanier, sur le boulevard de la Concorde à Laval, pour un match de football entre joueurs Pee-Wee. Pierre Houde, bonjour.
Bonjour Pierre.
Pierre Houde est notre invité et analyste pour parler de ces jeunes. Pierre, vous connaissez bien la structure, l'organisation du football mineur sur l'île de Laval, qui souvent fait la barbe à l'île de Montréal.
Oui, assez souvent. Oui.
Et ce sont deux équipes, on les voit sur le terrain, qui sont prêtes à se lancer dans la mêlée, qui sont, semble-t-il, bien entraînées.
Ils sont pas seulement bien entraînés, il faut souligner qu'une des deux équipes, le Delta, en est à sa première année, donc on nous a demandé de bien vouloir surveiller l'évolution de cette équipe qui n'a pas de victoire et qui sera en quête de sa première. Du côté des Sharks de Duvernay, Pierre, on y va pour un match très important qui pourrait leur assurer une place dans les séries.
Bon, alors place au football, donc un temps ensoleillé, mais un vent frais.
Pierre Dufaux, tout d'abord, première question, ça fait combien de temps qu'on est dans le métier?
Trop longtemps. Certains vous diront que ça fait trop longtemps que Dufaux est dans les parages. Ça va faire 25 ans, là, comme annonceur, commentateur, le 1er juin 80. Alors, on peut dire que ça fait à peu près 25 ans. Ça a commencé à Hull, à l'excellente station KCKCH, à l'époque où la radio était encore la reine des ondes, avant même... La télévision existait, mais était encore à l'enfance. Et j'ai passé 9 ans, j'ai fait à peu près tout ce qu'il y avait à faire. Ça a toujours été palpitant, la radio privée. J'ai été annonceur, commentateur, réalisateur, scripteur, chef annonceur, directeur des émissions. Et quand je suis parti, je suis allé à Ottawa, à la télévision d'État, alors que Lionel Duval, qui était là à l'époque, avait été muté à Montréal. Alors je l'ai, ni plus ni moins, remplacé. Je n'aime pas le terme, disons que je lui ai succédé. Et j'ai passé 8 ans à Ottawa à prendre mon métier de commentateur à la télé. Je faisais toujours de la radio, d'État. Et je suis venu à Montréal en décembre 72 et je suis là depuis ce temps-là. Et je dois dire que je trouve mon métier toujours aussi palpitant, aussi fascinant qu'au début. Je pourrais dire même que j'aimerais pouvoir le continuer pendant un autre 25 ans.
Maintenant, on sait que Pierre Dufaux est quand même attaché beaucoup au football et s'intéresse énormément à ce genre de sport. Pierre Dufaux a débuté comment au football? Comment c'est venu cette idée du football, cette maladie, si on veut?
Oui, c'est une maladie. Maladie comme participant ou comme commentateur?
Participant et comme commentateur également.
Bon, alors j'ai joué au football comme tous ceux qui fréquentaient l'école parce que je suis natif et élevé à Ottawa. J'ai joué au football dans la rue comme tout le monde, un peu comme les petits gars jouent au hockey dans la rue ou à la patinoire du coin. Et quand je suis allé à l'Université d'Ottawa, c'était un des sports principaux du programme sportif et je joue au football là. J'ai joué aussi dans des équipes juniors, municipales. J'ai toujours beaucoup aimé ce sport et je suis les Rough Riders d'Ottawa, une équipe professionnelle depuis 1948. Alors ça fait, je suis dans ma 32e année d'intérêt. Comme commentateur, je l'ai toujours suivi assidûment quand j'étais à Ottawa comme commentateur, sauf qu'on faisait pas de description. Et quand je suis arrivé à Montréal, à Radio-Canada en 73, j'ai été quand même assez chanceux. J'ai hérité de ce reportage des matchs de la Ligue canadienne de Richard Garneau, qui en avait assez à ce moment-là et qui devait accorder plus de temps à la préparation de ses matchs de hockey, à la soirée du hockey. Alors je fais ça maintenant pour une 7e année, le football à la télévision. C'est vraiment une obsession.
Maintenant, Pierre, on a eu une allocution lors d'un récent dîner pour les anciens patriotes au football. Ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est au niveau, au moment où tu as parlé, des Québécois qui ne connaissaient pas nécessairement le football. Est-ce qu'il y a peut-être une solution qui pourrait être facile, simple à apporter, afin que le simple amateur de football, on suit peut-être le football, mais on ne le connaît peut-être pas. Est-ce qu'il y a une façon assez simple de le connaître?
Il n'y a pas de façon simple. Quand on veut vraiment apprendre quelque chose, on prend les moyens pour l'apprendre. Si, par exemple, un patron dit à sa secrétaire, « Bon, vous allez être muté, je sais pas moi, à Londres ou à Madrid. » et vous gagnerez 4 fois plus de salaire. Mais pour ce faire, il faudra apprendre la langue du pays. Alors l'apprendre, Yvan, ça veut dire regarder le football attentivement à la radio, le regarder, l'écouter à la radio, le regarder à la télévision, suivre les reportages et écouter attentivement les analyses faites par les experts, tel Pierre Dumont et d'autres. Toutes les combinaisons possibles. Un peu comme si vous preniez de 1 à 7, c'est 7 chiffres, et que vous faisiez des combinaisons. Le livre du téléphone, par exemple, vous avez seulement 11 numéros. En comptant le 0, ça fait 10. Et regardez tous les numéros qu'on a. Ben, il est arrivé à une possibilité de 82 000 jeux à l'attaque et il n'avait pas terminé. Alors, il y a beaucoup de subtilités, beaucoup de raffinements, beaucoup de variantes dans les possibilités de jeux. Pour pouvoir déceler ça de l'œil nu, là, en regardant rapidement sur le jeu qu'on soit en personne de la télévision, il faut bien se rappeler qu'il y a 24 joueurs qui sont en mouvement constamment. Il y a seulement un ballon. Il y a une attaque et une défense. Tout voir, c'est impossible. C'est pour ça que les experts, les entraîneurs, les analystes regardent attentivement et pillent tous les moindres mouvements des joueurs à l'aide de films ou de rubans magnétoscopiques qu'on fait jouer, rejouer et rejouer et au ralenti, à l'extrême ralenti pendant des heures. Et c'est la seule manière de pouvoir dire 3 jours plus tard, tel joueur dimanche dernier n'a pas bien joué. Ou tel joueur a mieux joué que les gens pensent. Ou tel joueur n'était vraiment pas coupable sur ce jeu. Il tentait de sauver ou d'aider son camarade là, qui s'était fait prendre.
Évidemment, lorsqu'on parle d'apprendre peut-être le football, il y a peut-être une base de ça. Peut-être le football amateur, que les gens pourraient s'intéresser beaucoup plus.
Ben, c'est à la base de tout, Yvan. C'est tout joueur, tous ceux qui ont joué au football, qu'ils soient professionnels ou amateurs, il fallait qu'ils commencent quelque part. On ne devient pas expert en football du jour au lendemain. Moi, ça fait 32 ans que j'ai vu ça de près. J'ai joué pendant plusieurs années. Et je constate encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Non pas que je ne comprends pas, mais que je ne saisis pas immédiatement, c'est seulement qu'après analyse, après en avoir discuté, après réflexion, qu'on se rend compte que le commentaire fait durant le reportage n'était peut-être pas vraiment le bon. Il fallait faire la nuance. Souvent, on est émotif, on est impulsif, on est un peu partisan quand on décrit un match et on dit « Ah, il se produit telle chose, c'est la faute de tel joueur ». Toutes les indications sont là pour nous laisser croire que c'était bien ça, alors qu'après réflexion, on s'est dit « Oui, mais il a fait ça peut-être parce que ». Et ce n'est qu'après analyse et commentaires et discussions avec les entraîneurs et les joueurs en question qu'on se rend compte qu'on avait tort ou qu'on avait raison. C'est un jeu compliqué.
Évidemment, lorsqu'on parle de football amateur, les gens nous disent « Oui, mais il n'y en a pas tellement de football amateur au Québec. » Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de football amateur au Québec?
Les Européens nous posent la même question quand ils nous demandent pourquoi on ne fait pas plus de soccer. C'est pas une tradition. On ne peut pas blâmer les Québécois, ce n'est pas un reproche qu'on leur adresse, c'est une constatation. Si on voit que les Québécois francophones ne s'intéressent pas au football, c'est donc qu'ils ont d'autres préoccupations. Pourquoi sont-ils si connaisseurs et si experts en hockey, en baseball et en d'autres sports et pas au football? Et on dit, ben oui, mais ils devraient connaître ça, le football. Tous les anglophones le jouent en Ontario, dans les Maritimes, aux États-Unis. On est entouré de joueurs de football. Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas ça au Québec? Ben, c'est parce que les Québécois, il faut bien le dire, sont peut-être moins intéressés. C'est peut-être un sport qui ne va pas avec leur mentalité, avec leur tempérament. Ils se disent, c'est beau à regarder, jouer, c'est peut-être trop compliqué. Et il n'y a jamais vraiment personne qui s'est donné le mal, là, de diffuser le football. Quand je dis diffuser, je dis entre guillemets, à travers la province et à éduquer les jeunes. Ça ne fait pas partie des programmes sportifs dans les écoles primaires, secondaires, universitaires, collégiales, avec quelques exceptions. Trois-Rivières est une forteresse de football, mais Trois-Rivières, ce n'est pas le Québec. C'est pas parce que Trois-Rivières en fait que tout le monde en fait nécessairement, mais tout le monde devrait en faire. C'est là qu'est le problème, Yvan, je pense. Et tôt ou tard, avec la popularité des Alouettes, le stade olympique, la télévision, la radio, je pense que ça va être laborieux, ça va être long. Mais en temps et lieu, j'espère, je le souhaite ardemment, que le football devienne aussi populaire, tant du point de vue pratique, là, que de regarder le sport à la télévision, ou l'écouter à la radio ou en personne, que le hockey ou le baseball.
On sait que le football est un sport qui coûte énormément cher, tant au côté équipement et tout. Est-ce que l'avenue d'un joueur comme Tom Cousineau, avec les Alouettes de Montréal, n'est pas sans faire peur aux amateurs et aux organisateurs ou aux personnes ressources qui pourraient éventuellement s'occuper de football?
Oui, ça fait peur aux joueurs canadiens, je sais, pour l'avoir entendu de mes oreilles et pour le constater de visu, c'est évident, ça saute aux yeux. Lorsque Tom Cousineau est arrivé à Montréal et qu'on a annoncé à grand renfort de publicité qu'il allait gagner 180 000 ou 200 000 par année, alors qu'un joueur comme Peter Dellarriva ou Larry Smith et Wally Buono et tous les bons joueurs canadiens gagnent à peine 35, 40 ou 45 000, 50 000, c'est à peu près le plafond pour un joueur canadien. Le joueur se dit, ben voilà, moi j'ai joué 7 ans, 8 ans pour cette équipe, j'ai aidé cette équipe à amener 60 000 spectateurs au stade olympique, j'ai aidé cette équipe à gagner 2-3 Coupes Grey, à 7-8 championnats, et je gagne 4 fois moins qu'un joueur de 21 ans qui arrive des rangs collégiaux, supposément le meilleur secondaire aux États-Unis, c'est approuvé. c'est évident qu'on se sent mal. On dit pourquoi que les Américains sont si importants et que nous, on ne l'est pas. Bon, écoutez, c'est pas par hasard que tous les entraîneurs des équipes de la Ligue canadienne de football sont des Américains. Les Américains pensent comme des Américains. Ils arrivent au Canada et se disent, bon, ben, le règlement dit qu'il faut avoir 18 joueurs canadiens. Bon, ben, on aura 18 joueurs canadiens. Mais on va tenter de trouver les meilleurs Américains pour tenter de combler les carences occasionnées par le manque de talent chez les Canadiens. Ce qui n'est pas toujours vrai. Les Américains ont plus d'entraînement, sont mieux entraînés, sont meilleurs que les Canadiens. Je parle des Québécois comme des Manitobains, comme des Ontariens. Bon, ça c'est acquis. Sauf que les entraîneurs américains ne font pas grand-chose pour aider les entraîneurs canadiens à développer du talent canadien. Or, quand on trouve finalement un bon joueur, qu'est-ce qu'on fait? On le sort de l'Université de Trois-Rivières ou d'Ottawa ou de Moncton ou de Winnipeg, puis on la voit où? Aux États-Unis pour faire ses études avec une bourse. Là-bas, on s'en occupe comme si c'était la chose la plus importante. S'il a du talent, on l'a dit, pour le bien du joueur et de l'université pour sa bonne réputation, ce joueur va devenir très bon. Lorsqu'il atteint l'âge de la graduation, qu'il obtient son diplôme, il est libéré et vient tenter sa chance au Canada. S'il réussit, on dit ben, c'est parce qu'il a eu son entraînement aux États-Unis et à 90% du temps, c'est vrai. Or, on n'a pas de bons entraîneurs au Canada, on en a de bons. Mais comparable aux Américains, non. C'est là qu'est toute la question. Dans tous les autres sports, Yvan, olympiques ou autres au Canada, amateurs, tous les entraîneurs ou presque viennent d'Europe, d'Asie ou des États-Unis. C'est là qu'on trouve les meilleurs entraîneurs parce qu'ils n'ont plus de tradition.
En terminant, Pierre, peut-être une petite question concernant la Ligue nationale de football. Je pense que tu es un de ceux, non pas je le pense, mais je suis sûr, tu es un de ceux qui ne voient pas la Ligue nationale à Montréal pour l'instant.
Bon, ce que je veux établir tout de suite, c'est dire aux gens que je ne suis pas contre la venue de la Ligue nationale. Je dois dire aussi que je ne suis pas pour. Je suis absolument indifférent. Ce que je dis, c'est que même si la Ville de Montréal veut à tout prix une concession, que les amateurs le désirent et que les journalistes claironnent sur tous les toits que c'est la chose à faire, moi, je n'y crois pas pour la simple raison que la Ligue nationale n'est pas intéressée à venir à Montréal. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres villes américaines à satisfaire avant de venir à Montréal. Si jamais ça se produisait qu'on allait outre-frontière, il y aurait, je vous jure, une révolution au sein des villes intéressées qui attendent depuis des années pour obtenir une concession. Et l'argent, ce n'est pas un problème pour les Américains, ils en ont.
Pierre Dufault, on te remercie pour tes bons commentaires et continue à être un bon ambassadeur pour le football au Québec.
Merci infiniment.
C'est important d'avoir le talent, mais surtout l'effort. On peut le lire dans le visage d'une personne qui se présente. Moi, quelqu'un venait là, il passait une demi-heure, 40 minutes, une heure avec moi. Je la laissais parler, j'écoutais et j'étais capable de faire le portrait de la personne. Qu'est-ce qui vibrait en dedans, à moins d'être un acteur? Je pouvais. Je pourrais le faire avec vous, je pourrais le faire avec madame, avec monsieur. Donnez-moi une heure, je vais vous écouter, je vais vous dire qui vous êtes. J'avais une mémoire phénoménale, je retenais tous les sièges gagnés par tous les partis dans toutes les provinces. C'est tout inscrit là, là. Dans ça, là, on n'avait pas des tableaux comme vous avez aujourd'hui, là, avec des choses, l'ordinateur, ça n'existait pas, ça. Le président de Radio-Canada est venu à 1h du matin quand on a fermé boutique, alors qu'on savait que les libéraux avaient gagné avec M. Trudeau. Et serré la main, beau travail, monsieur. Jamais personne qui a parlé de ça. Ça fait plaisir de savoir qu'on n'a pas étudié, qu'on n'a pas lu, qu'on n'a pas posé des questions pour rien. C'est là qu'on voit le résultat d'une passion qui était entretenue, qui était alimentée au fil des ans.
Ce stade olympique sera prêt à accueillir les athlètes de plus de 130 nations et ce sera la cérémonie d'ouverture. C'est pas tout à fait prêt, mais ce sera à temps pour le 17 juillet. Nous avons visité le grand stade, les piscines olympiques et le vélodrome. Ici au grand stade, le travail progresse assez rapidement. Les grands panneaux indicateurs pour les résultats sont en place. La tour, déjà depuis quelques semaines, c'est chose faite. On a commencé à travailler sur la piste d'athlétisme. Je dirais que plus de la moitié des sièges ont été posés. Aussi, il faut remarquer que les postes de commentateurs sont presque terminés, sont en place pour la plupart. Et les gradins, mon Dieu, ça va très bien de ce côté-là aussi. Et finalement, autour de l'anneau circulaire, on se rend compte que 90% des réflecteurs sont posés. Et à la piscine olympique, le royaume des nageurs et des plongeurs, ben, ça va très bien. La piscine de 50 mètres est prête, l'étanchéité a été faite. Alors, il ne reste plus qu'à peinturer un peu, poser quelques tuiles ici et là. La même chose pour le bassin de plongeon. Et le bassin d'entraînement de 25 mètres est prêt, lui aussi. Alors, pas de problème de ce côté-là. Tous les sièges sont en place. Et ici, ce sont les postes de commentateurs. D'ailleurs, c'est probablement ici que Jean-Maurice Bailly vous présentera des reportages sur la natation, le plongeon et les éliminatoires de water polo. Et finalement, le système de sonorisation et d'éclairage est en place. Il ne reste plus qu'à faire maintenant les tests. Au Vélodrome, cet amphithéâtre de 5000 sièges, centre très polyvalent, où on peut tenir à peu près toutes sortes d'épreuves, on sait qu'il servira d'abord et surtout pour les épreuves de cyclisme. Il est prêt, il devait être prêt il y a 2 ans pour les championnats mondiaux, mais ce n'était pas fait à ce moment-là, loin de là. Mais là, c'est terminé. Le Vélodrome, un édifice superbe.
On est à l'époque, là, Michel, où le porte-avions est encore une espèce de jouet. Il y a beaucoup d'amiraux, beaucoup de grands stratèges qui n'y croient pas, qui disent que c'est trop vulnérable. Et qui ne parlent que du cuirassé. Le cuirassé, évidemment, c'est cette espèce de masse d'acier avec des canons qui varient entre 14 et 18 pouces, la gueule là, du canon. Et on y croit encore beaucoup plus qu'aux porte-avions. Sauf que les Japonais avaient compris que les porte-avions, ça pouvait servir à quelque chose dans une guerre éventuelle dans le Pacifique où c'est plein d'îles. Et ça prend plus que des cuirassés, surtout si on ne peut pas atterrir quelque part, ça prend des porte-avions. Alors, ils sont allés avec 6, ils avaient 350 avions à leur disposition, tous des monomoteurs, des avions plutôt lents, 220, 230 000 à l'heure. Et ils ont attaqué en 2 vagues. La première est venue un dimanche matin, comme vous l'avez si bien dit, et l'attaque a commencé très précisément à 7h55, heure d'Hawaï. Alors, si on se reporte là 5h, parce qu'on est en avant hein, d'Hawaï, ici, il est midi, je sais pas quoi, là, midi 40, 35. Alors là-bas, il est présentement là 7h35. Alors, on a voulu commémorer ça à la seconde près de l'attaque qui a été déclenchée par les Japonais. Ça, c'est l'explosion, de, si je ne m'abuse, de l'Arizona. Oui, ça, c'est évidemment, c'est ce qui a fait... Presque la moitié des morts, des pertes de vie subies à Hawaï, c'est dans l'Arizona qu'on les retrouve, plus de 1200. Alors, en tout et partout, il y a eu environ 2400 morts. C'est pas énorme quand on pense à l'envergure de l'opération. Surtout le code diplomatique, pas le code militaire. Et ils savaient à peu près ce qui se passait, sauf que dans les messages qui étaient si bien codés, et où on disait pas tout, on savait qu'il y avait des choses qui se préparaient, qu'il y avait des déplacements de bateaux, qu'il y avait des déplacements de troupes, mais on savait pas où il allait attaquer.
Pierre Dupont, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je fais rien.
Rien?
Je fais de la retraite.
Wow.
Je fais mon possible.
Donc, à la retraite, vous qui avez travaillé pendant de si nombreuses années, c'est sûr que vous n'êtes pas arrêté. Vous continuez encore à apprendre à chaque jour des choses.
C'est-à-dire que l'intérêt est toujours là. Je regarde constamment la télé, j'écoute la radio, je lis beaucoup, j'écris. Vous savez, quand on passe, moi, j'ai commencé en 54, alors ça fait quoi? 46 plus 12. Ça fait 58 ans que je fais ça. Et je me souviendrai toujours des paroles de Claude Ryan quand il était rédacteur en chef au Devoir. Il disait à ses nouveaux arrivés, comme journaliste, il disait, je ne m'attends pas de vous à ce que vous soyez... objectif. Je vous demande simplement d'être honnête.
Honnête.
Et la curiosité est la plus belle qualité d'un journaliste.
Tout à fait. Vous l'avez entretenu depuis votre tendre enfance jusqu'à maintenant.
Exactement.
Encore aujourd'hui.
Exactement. Et c'est comme ça qu'on prend le goût. Hein? C'est de fil en aiguille. On ne peut pas se rassasier de quelque chose et dire « Ah, c'est fantastique !» puis de prendre une suite. Vous savez, j'ai toujours dit à mes enfants, puis à tous ceux à qui j'ai eu le plaisir de parler, que quand on va à l'école, c'est une porte qui s'ouvre et qui vous dit, viens apprendre à écrire, Pierre, viens apprendre à lire. On nous expose à l'éducation, à la culture, mais le reste, là, c'est à nous de
faire. Soi-même, ouais.
C'est pas parce qu'on est à l'école et qu'on a un DEC ou même un bac qu'on peut partir puis dire qu'on peut faire n'importe quoi. C'est pas vrai. Ça, c'est l'essentiel qu'on lui donne, c'est la base. Et à partir de là, il faut le faire par soi-même. Et quand l'opportunité se présente, il faut faire des choix. Hein? Il n'y en a pas 3 en même temps, là.
Non.
Le but de l'exercice, c'est de faire une carrière. Comme dans n'importe quelle carrière. C'est de gravir les échelons pour arriver à quelque chose. Je ne m'en tirais pas. Moi, ça me tentait de faire de la télé. Je pensais capable d'en faire de la télé. Mais ça commence par la radio d'abord.
Ouais.
Et surtout, développer son talent, ses connaissances, sa personnalité, sa maturité. L'école n'enseigne pas la vie. L'école enseigne beaucoup de choses qui font partie de la vie. La vie, on l'apprend sur le tas. Montrez-moi quelqu'un qui a eu du succès, puis je vais vous montrer quelqu'un qui a eu des échecs. Par l'échec, on réussit. J'ai eu ma part, hein. Des échecs, oui, mais je parle pas d'échecs monumentaux, là. D'être déçu, mais il y a tellement de bonnes choses ici. Alors, les Olympiques, j'ai fait de la natation avec Jean-Marie Deconinck, j'ai fait 12 Jeux Olympiques, ouais. 7 Jeux du Commonwealth, 3 Jeux Panaméricains, des championnats du monde, des championnats canadiens, bref. Alouette, j'en ai fait beaucoup et j'ai beaucoup aimé ça. C'est une belle carrière, hein? Et mes amis vous diront que je suis un passionné de la géopolitique et de tout ce qui se passe, pas seulement au Canada, mais dans le monde. Et ça, j'aime ça parce que ça meuble mes moments libres. Je sais que j'en ai beaucoup. Et aussi la qualité de la langue. C'est que la langue, c'est drôle, hein? On se donne du mal pour être bien vêtu, pour être bien élevé, pour manger ce qu'il y a de mieux. On fume pas, on prend pas un coup. On est des modèles. Mais quand arrive le temps de parler de la langue, vous en êtes
capable. C'est pas important, ouais.
Personne ne s'occupe de sa langue. Ils grandissent avec des parents qui parlent plus ou moins bien, avec des amis qui parlent plus ou moins bien. Puis on ne fait pas d'efforts pour essayer de, je dirais pas de devenir un docteur en langue française, mais au moins de respecter la langue. Tout ça pour dire que la société évolue, je ne suis pas sûr qu'elle évolue dans le bon sens. Toujours. Il y a des choses qui sont bien faites quand même.
Mais quand même, à ce point de vue-là, l'évolution qui s'est faite est quand même
positive. Oui, mais c'est fait trop rapidement, je pense.
Mais peut-être, c'est ça. Mais tout à l'heure, on parlait de déresponsabilisation, du fait que les gens, en ce moment, vivent aujourd'hui.
Voilà.
Ce qui compte, c'est mon bonheur, mon
c'est
plaisir.
C'est ça, son gâteau.
Mais ça, ça a commencé...
Oh, ça fait déjà un bout de temps.
Dans les années...
90. Ben, j'ai eu une amorce que dans les années 70-80, ouais. Où les enfants deviennent de plus en plus indépendants. Bon, bref, ils sont tellement gâtés par des parents. Le problème, en fait, c'est que le père travaille puis la mère travaille. Les enfants sont élevés dans des garderies. Ils vont à l'école. Et là, le but ultime des parents, c'est de faire le plus d'argent possible pour avoir deux voitures. D'aller en Floride ou quelque part à tous les ans.
Ouais.
D'avoir un chalet, si possible. Bref, la vie, le matérialisme. Non, mais c'est fait faire le procès de la population ou des peuples. D'abord, on est tellement différents. Il y a 204 pays dans le monde. Dieu merci qu'on n'est pas tous pareils. Hein? L'Europe, c'est ce qui fait sa beauté. Il y a 45, 50 pays en Europe. Il n'y en a pas deux pareils. Mais c'est une histoire, Anne-Marie, parmi tant d'autres. Moi, mon histoire, ce n'est pas important pour les gens. Je ne suis personne, moi.
Non, mais
c'est un garçon qui a fait sa vie comme tous les autres.
Ce que vous avez accumulé au cours des années.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ce que je constate, c'est que les autres devraient apprendre un peu de moi et de commencer à s'intéresser à autre chose que leur psy chez eux, là.
C'est la
curiosité. Commencez à regarder ailleurs pourquoi c'est comme ça en Finlande. Pourquoi c'est comme ça en Corée du Sud? Oh, la Corée du Nord, ils ne s'entendent même pas. Non. Ils veulent même faire la guerre. Pourquoi?
Commencez peut-être pour les gens qui voient ça comme si gros de commencer par petit endroit à la fois.
S'interroger.
Why?
Varum.
Pourquoi?
Et moi, je trouve que c'est une passion qui ne s'épuise jamais. Et ça reste peu importe l'âge. C'est d'apprendre pour avoir le plaisir de connaître et de transmettre à d'autres qui sont curieux. Voilà.
La transmission de la curiosité, de voilà. La passion.
Ouais.
Et Pierre Dufault, merci beaucoup.
Ah, je vous en prie, ça m'a fait plaisir.
Rocket belles oreilles, dimanche matin, 9h, sur les ondes de C'est quoi FM.
Vous voulez faire de la radio, de la télévision ou tout simplement parler avec un accent? Inscrivez-vous dès maintenant à l'École de diction Pierre Dufault. L'École de diction Pierre Dufault offre une formation personnalisée. Écoutons ces témoignages.
Grâce à l'École de diction Pierre Dufault, je travaille maintenant sur le câble aux petits jalons illustrés.
Grâce à Pierre Dufault, je suis responsable de l'intercom aux Galeries d'Anjou.
Moi, c'est Pierre Dufault, lui-même, qui m'a sorti des toilettes du complexe des jardins.
Oh oui, grâce à l'École de diction Pierre Dufault, vous deviendrez peut-être un jour animateur à Cinequiz. À l'École de diction Pierre Dufault, on va vous apprendre à parler comme du monde. Depuis 5 ans, nous n'avons connu qu'un seul échec.
Bonjour, ici Richard Z. Sirois et vous écoutez Rock et Belles Oreilles.
L'École de diction Pierre Dufault, c'est ça qu'il vous faut.
Un expert américain estime qu'il en coûte à chacune des superpuissances qui participent aux Jeux Olympiques, il en coûte, dis-je, à chacune de ces superpuissances, 15 millions de dollars pour former un médaillé d'or. Alors, quand on pense aux efforts et aux dépenses qui sont consacrées aux Jeux Olympiques, pas étonnant que tous les moyens soient soudainement bons pour arriver à gagner une médaille. Hebdo Sport. Bonsoir auditeurs du réseau français de Radio-Canada, d'un bout à l'autre du pays, ici Pierre Dufaux, bonsoir, bienvenue à l'émission Hebdo Sport. La reine Victoria a régné de 1837 à 1901, elle a donc été reine d'Angleterre pendant 64 ans. Louis XIV a régné de 1643 à 1715, il a été roi 72 ans, le roi soleil. Et l'empereur Hirohito, qui est décédé il y a quelques jours à peine, a régné à titre d'empereur, le Mikado du Japon, de 1926 à 1989, un règne de 63 ans. Ils sont morts tous les trois, évidemment. Enfin, Hirohito, c'est tout récent. Mais notre prince, à nous, le prince des annonceurs, voilà que ça fait 59 ans qu'il règne. Il est dans une forme impeccable. Il va battre tous les records. Bonsoir, Roger Boulut.
Bonsoir, Pierre Dufaux. Mon Dieu, quel plaisir d'être ici.
Vous faites partie de cette élite. Moi, je vous suis, Roger, depuis que je suis petit garçon.
Il y a deux sortes d'élite, vous savez, au Québec. Il y a l'élite simple et l'élite double. Continuons.
D'abord, il nous fait plaisir de vous accueillir.
Merci.
On en parle depuis déjà plusieurs semaines à l'émission et tout plaisir est pour nous, Roger. Je sais qu'on aura énormément de choses à se raconter et on va procéder dans quelques minutes. Mais avant, j'aimerais rappeler à nos auditeurs qui sont des habitués, qui ne sont pas des habitués, que nous aurons, bon, évidemment, Claude Canneville qui nous parlera en direct du forum. Il y aura beaucoup de choses à raconter parce que Guy Lafleur, qui est probablement un de vos favoris, joue ce soir contre les Canadiens, mais dans l'uniforme des Rangers. Les Nordiques ont joué cet après-midi, ils ont gagné 6-3. Albert Ladouceur nous parlera de ce match-là en direct de Québec. Marie-Josée Turcotte, qui est au centre Claude Robillard, nous parlera par téléphone du match de double qu'a gagné le Canada cet après-midi contre l'Uruguay pour ainsi se qualifier pour le prochain tour parce que le Canada a gagné contre l'Uruguay 3-0, c'est-à-dire les deux simples d'hier, le double d'aujourd'hui, les deux simples demain sont pour la forme seulement. Et puis nous aurons de la bonne musique, notre année souvenir ce soir c'est 1936, et on aura aussi quelques petites surprises, j'en dis pas plus, parce que je ne veux pas que Roger s'y joue.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adrebe la cosa, ding-e-dong.
Non, ding-e-dong.
Écoutez la planète chanter.
Oh, y'a les marins qui chantent, les rêves qui les hantent, au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y'a les marins qui dorment, comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, y'a les marins plein de bière et de drames aux premières lueurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, une montre des temps à croquer la fortune, à décroisser la lune, à pousser des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, dans leurs grosses mains vides, à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs baguettes et sortent en rampant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marais qui dansent en se frottant à la panse. Sur la panse, les femmes, et ils tournent et ils dansent comme des soleils. Dans le son déchiré de l'accordéon rance, ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que, tout à coup, l'accordéon expire. Alors, le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur patave jusqu'en pleine lumière. Dans le port de l'Amsterdam, il y a les marins qui boivent.
une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent dans le ciel, se mouchent dans les étoiles et pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, nous exhortons tous les Canadiens et Canadiennes à se recueillir et à se souvenir de tout ce que les anciens combattants ont sacrifié pour nous. N'oublions jamais.
Le souvenir est fondamental pour définir d'où je viens, qui je suis et où je m'en vais.
I respect Remembrance Day.
Because it's such an important date and such an important time.
C'est important de se souvenir.
Not just one single day, November 11.
Le 11 du 11e mois à 11 heures.
I think it's more than just saying thank you for your service.
It's also about the human side and not just the faceless soldier side.
For Remembrance Day, I just think about
Passchendaele,
Omaha Beach,
Juneau Beach.
Ce qu'on a fait pour les autres pays.
400,000 people took part in D-Day.
La guerre de Corée.
Hill 187.
Stabilization in Congo.
Qu'est-ce qui est arrivé en Haïti?
The children of Afghanistan.
The genocide that lasted 100 days.
For me, it's to remember the fallen.
Toutes les camarades avec qui j'ai combattu.
I remember my husband, Corporal Bryce Keller.
J'ai le capitaine Nicolas Gadar dans mon cœur.
Jean-Guy, mon ami.
Caporal chef Byron Dreff.
The families and the civilians and the people who have to deal with war in the places we've been.
I remember World War I veterans when I was growing up.
I remember Chinese Canadians in World War II.
Ces gens-là ont fait des choses qui sont extraordinaires.
They're the heroes. They gave their life.
La raison pourquoi je suis ici, la raison pourquoi je porte cet uniforme, vient de ce qui a été fait par mes prédécesseurs.
We have what we have in Canada today, and thanks to our forefathers who have gone before us.
I'm not a hero, I'm a survivor.
Pour ces gens-là, ça vaut la peine de se souvenir, puis de montrer du respect envers eux.
Le souvenir continue de me propulser, de me motiver et de me convaincre d'accomplir la mission qui m'est assignée.
Bonjour, ici Peter Biraud, correspondant spécial Potpourri Show. CIUT FM and Potpourri Show offer the kind of wide-ranging coverage of the important cultural, social, and political issues of our time, not available on any other broadcast. Ce type de diffusion a besoin de votre soutien. Je suis tellement fier de faire partie de cette émission stimulante. Alors, je vous invite à aider Potpourri Show à rester en onde et à nous écouter chaque dimanche sur CIUT FM.
La radio communautaire à temps plein, à son meilleur, 24/7, 365 jours par année. Surfez sur les ondes de CIUT 89,5 FM. Aidez-nous à atteindre notre objectif de $100,000 en faisant un don aujourd'hui à www.cut.fm. Cliquez sur le bouton « Donate » pour faire un don et soutenez le son de votre ville.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Ça fait 40 ans aujourd'hui que nous sommes à la barre de Popourri Show sur CUT FM. Les 40 ans de Popourri Show, c'est aussi l'anniversaire des auditeurs, des bénévoles et des partenaires. Que de chemin parcouru. Une des rares émissions sur cette antenne, en français, en créole, depuis 40 ans. 40 ans, un âge où il est temps de faire le bilan. Que signifie cette émission pour vous, madame, monsieur? Allez, j'ai hâte de vous entendre, soit en nous envoyant un enregistrement ou un message par courriel à popourri@cut.fm. Que signifie Popourri Show pour vous? Tirage au sort de cadeaux et de belles surprises. Toute l'équipe de la radio vous remercie du fond du cœur pour vos messages et votre désir de participer à nos émissions en tant que nouveaux collaborateurs et partenaires. Popourri Show, 40 ans déjà. De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Français, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est pas ce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeur et locuteur. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Salon, pendant le réveillon, on saute sur les lits, ce soir tout est permis. Le soir de Noël, on se fait des cocktails, on s'amuse toute la nuit, on danse jusqu'à minuit. Lumière qui clignote, le buffet qu'on grignote, danse le disco en ouvrant nos cadeaux. Et si Papa Noël vient et descend du ciel, danse pas avec nous en jouant du gazou. Le disco en sortant de son traîneau donnera ses jouets, buvant un verre de lait. Papa Noël aussi aime danser toute la nuit, en mangeant des biscuits, c'est le plaisir garanti. Lumière qui clignote, le buffet qu'on grignote, danse le disco en ouvrant nos cadeaux. Et si Papa Noël vient et descend du ciel, dansera avec nous en jouant du gazou. Les anges dans nos campagnes ont dansé le Noël.
c'est la saison des fêtes et c'est une découverte que nous proposent nos amis chez De La Communication, à qui nous disons bien le bonjour. Et oui, le 7 novembre est sorti l'album Le Temps des Fêtes, volume 2, de Guillaume Leclerc. Né à la Pocatière au Québec, auteur, compositeur, interprète et concepteur, créateur québécois. Il a travaillé dans le domaine du spectacle pendant de nombreuses années avant de lancer sa carrière d'artiste. Il est connu pour ses histoires touchantes et cocasses, ainsi que pour ses albums comme le micro-album Le Grand Voyage, sorti en 2021, et son premier album complet, Partir n'importe où, en 2023. Deuxième volume pour Les Temps des Fêtes de Guillaume Leclerc, que nous entendrons tout au long du mois, jusqu'au temps des fêtes, bien sûr, de belles histoires, du temps des fêtes, des premières neiges, jusqu'au premier jour de l'an, à retrouver sur notre site web popourichaud.com. L'ouverture de la 28e édition de Ciné Franco a connu un franc succès avec le film « Et maintenant ?». Et oui, la fête se poursuit jusqu'au 16 novembre au cinéma Carlton et tout au long de l'émission, nous mettrons les projecteurs sur nos coups de cœur. Vous avez fait un don, alors vous souhaitez gagner des billets pour aller voir Ciné Franco? Écrivez-moi immédiatement à popourri@cut.fm. Retrouvez tous les films à l'affiche sur www.cinefranco.com ou popourrichaud.com. Nous ferons escale à Paris avec deux grands prix littéraires cette semaine. La Mauricienne Natacha Apana remporte le prix Femina du roman 2025 pour La Nuit au cœur. Et le prix Goncourt 2025 attribué à Laurent Mauvignier pour La Maison vide.
France Culture.
Je suis tellement heureuse d'avoir un prix d'automne. C'est mon 12e livre et mon premier grand prix. C'est ainsi qu'a réagi Natacha Apana, distinguée par le prix Femina du roman 2025 pour La Nuit au cœur, publié chez Gallimard. La journaliste et romancière mauricienne qui vit en France, également en lice pour le Goncourt, a été choisie au second tour du vote par le jury entièrement féminin. Jeanne Serrin, vous avez lu ce récit poignant et à vif sur les violences conjugales, déjà vendu à près de 31 000 exemplaires en un peu plus de 2 mois.
C'est un roman qui s'ouvre sur une pièce. 3 hommes y sont enfermés et se scrutent. Ils ne se connaissent pas, ne se doutent pas une seconde des raisons qui les réunissent. Ces hommes, ce sont les bourreaux respectifs de 3 femmes que l'on découvre dans ce roman. C'est l'histoire de Shaïnès Daoud, habitante de Mérignac, retrouvée morte à quelques mètres de chez elle, le corps calciné après que son mari l'a aspergé d'essence. Ce drame, il est connu. On l'appelle le féminicide de Mérignac. C'est aussi l'histoire d'Emma, une femme mauricienne, une cousine éloignée de l'autrice, au visage d'ange et au rire cristallin, fauchée à l'aube par son mari au volant d'une grosse berline, un homme d'apparence toujours souriant mais addict au jeu d'argent et qui ne supportait pas la modernité de sa femme. C'est enfin l'histoire d'une presque adulte de 17 ans, passionnée de littérature. Elle va tomber amoureuse d'un homme qui a l'âge de son père, 30 ans de plus qu'elle, un écrivain, poète, avec qui elle partagera 6 années de sa vie et autant de déménagements précipités, un génie sombre, comme elle l'appelle, qui lui fera vivre 6 années de violence et aspirera à sa jeunesse. Cette femme est la seule survivante du livre. Elle s'appelle Natacha Apana. Angle mort de sa vie, comme elle l'écrit, c'est la première fois que l'auteur se retourne sur ses années. En tâtonnant sur l'utilité de sa démarche, elle rejoue le fil des événements et entrelace sa vie avec celle de Shaïnès et Emma, comme pour tenter de comprendre ce qui lui a permis à elle de ne pas être tuée. C'est donc un roman qui décortique les mécanismes de la violence, un motif déjà abordé dans l'œuvre de l'autrice en 2016, avec notamment Tropique de la violence, qui racontait l'oppression subie par ses aïeux descendants d'esclaves. Cette fois, c'est à partir de sa propre expérience qu'elle plonge le lecteur, page après page, dans l'emprise conjugale. Le récit se mue ainsi en une enquête minutieuse, se rendre sur les lieux, interroger les témoins. Il y a l'obsession de connaître précisément l'enchaînement des événements, recueillir tous les détails à la manière d'une fée diversière. Natacha Apana a, rappelons-le, exercé la fonction de journaliste, mais il n'y a jamais un seul récit. Et celui qui consiste à restituer les faits sur la dernière journée de la condamnée, aussi fidèle soit-il, ne suffit pas à l'auteur. Natacha Apana s'attarde sur l'avant, ces années où le goulot d'étranglement se resserre autour de sa propre adolescence, de la vingtaine de Shainez et de celle d'Emma. On lit le contrôle coercitif, la jalousie paranoïaque, l'isolement, la sensation d'une nuit qui s'abat sur le foyer à chaque fois que la porte qui donne sur la rue, sur le monde, se referme. Le titre de ce roman, La nuit au cœur, c'est ce terrorisme intime. C'est ainsi que l'autrice l'appelle. Elle l'expliquait le 29 septembre au micro de Marie Richeux dans le Book Club.
Je voulais que le mot nuit apparaisse dans ce titre parce que de là, de son image poétique, il me semblait que c'était aussi une tentative de dire l'opacité, une tentative de dire la noirceur. Mais toujours, au cours de cette écriture, j'étais accompagnée par quelques images et notamment des cœurs de ces femmes qui battaient. Je me souvenais de la manière dont mon propre cœur battait dans la voiture. C'est une manière dont il n'a plus jamais été emballé comme cela, été agité comme cela. Et j'ai toujours pensé, si les cœurs d'Emma, de Shainez et de toutes les autres ont battu de la même manière, on voulait sortir par la bouche, parce que c'est l'impression que j'avais, comme cela. C'est pour ça, c'est plutôt la noirceur au cœur, la nuit au cœur.
Cette hypervigilance et cette peur de voir le moment basculer qui habite chaque lobe du cerveau de ces femmes, Natacha Apana les restitue avec une immense justesse. C'est Shainez qui n'ouvre plus les volets de sa maison, c'est Emma qui, se sachant condamnée, visite sa sœur pour passer une dernière après-midi avec elle. C'est enfin Natacha qui, 30 ans après, rêve d'un rôdeur sans visage qui la chasse et la paralyse encore jusque dans son sommeil.
Avec la nouvelle application « Apprendre le français avec TV5Monde », apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Inter. Les ventes de livres en France sont en baisse, moins 5% en septembre, mais celui-là va faire exception. La maison vide de Laurent Mauvigné décroche donc le Goncourt 2025. L'annonce a été faite il y a quelques minutes. Brasserie de Rouen, à Paris, comme c'est l'usage, vous vous y trouvez. Bonjour Ilana Bor-Youssef.
Bonjour.
C'est une fresque familiale qui est récompensée sur plusieurs générations et dans la Touraine, la terre natale de Laurent Mauvigné.
Oui, c'est un roman qui se déroule dans un village fictif qui s'appelle Labassé, mais qui en effet est le village d'origine familiale de Laurent Mauvigné, qui revient à partir d'une commode et de quelques objets sur l'histoire d'une grand-mère effacée de l'histoire familiale. C'est une vaste fresque, en effet, un grand et gros roman, 700 pages, 1 million de signes, mais ça n'a pas découragé les lecteurs puisque d'ores et déjà, le livre se vend très bien. Il faut souligner que Laurent Mauvigné, c'est une consécration absolue pour lui, il n'avait jamais obtenu de grand prix littéraire d'automne. Le deuxième grand vainqueur de cette saison des prix, si je puis dire, eh bien ce sont les auditeurs de France Inter, figurez-vous, parce qu'ils avaient repéré Laurent Mauvigné dès ses débuts. Il avait remporté le prix du livre Inter en 2001 pour son deuxième roman qui s'appelait Apprendre à finir. Ce prix, c'est aussi la consécration d'un éditeur d'un talent et d'une probité exemplaire, Thomas Simonet, qui a pris la direction des éditions de Minuit il y a 2 ou 3 ans à peine, après une grande carrière chez Gallimard. Et puis, ce qu'on peut retirer aussi comme enseignement de ce prix, c'est l'incompréhension qui semble définitive entre Emmanuel Carrère
et le
jury. Ah
oui, qui était l'autre grand favori, Ilana.
Alors, et oui, mais figurez-vous que l'autre grand favori, comme vous dites, n'a obtenu aucune voix. Ouais. Mauvigné a obtenu le prix avec 6 voix dès le premier tour, et les 4 autres voix sont allées à l'outsider, Caroline Lamarche, avec 4 voix. Donc, et c'était la 4e sélection d'Emmanuel Carrère pour le prix Goncourt. Peut-être aura-t-il plus de chances demain pour le prix Médicis. Est-ce qu'on a le temps de dire un mot du prix Renaudot ?
Très très rapidement, Ilana.
Alors le prix Renaudot a été attribué à Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour Je voulais vivre aux éditions Grasset, qui est un livre où elle réécrit les trois mousquetaires, mais depuis le point de vue de Milady.
Merci Ilana Mor-Youssef. Victoire donc pour Laurent Mauvigné pour ce Goncourt 2025, La Maison Vide, et puis malaise autour d'Emmanuel Carrère, qui repart donc bredouille. Ilana Mor-Youssef en direct avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre.
Et oui, ce dimanche, Chapeau pourri chaud en partenariat avec Ciné Franco présente la 28e édition du Festival Grand Public qui se tiendra du 7 au 16 novembre 2025 au cinéma Carlton, au cœur de la ville de Toronto. Cette année, le thème « Les facettes de l'humanité » prend forme grâce au lien de visionnage que nous font parvenir les distributeurs de France, de Suisse, de Belgique, du Québec, de l'Ontario et d'ailleurs. Du 7 au 16 novembre, découvrez nos coups de cœur sur CUT 89.5 FM et sur nos réseaux sociaux. Participez, devenez membre de l'unique et l'incontournable rendez-vous de la francophonie et courez la chance de gagner des places au Festival Ciné Franco. Faites un don à Popourri Show en direct sur www.cut.fm et cliquez sur « Donate ». Et veuillez nous écrire immédiatement à popourri@cut.fm. Aidez-nous à garder l'antenne. Du 7 au 16 novembre, célébrons le 7e art et la langue française avec Popourri Show et la 28e édition de Ciné Franco, plus vibrante que jamais.
Bonjour, je m'appelle Marceline et je suis la fondatrice de Ciné Franco, le festival international du cinéma francophone à Toronto. Et c'est la 28e édition qui va commencer le 7 novembre 2025 au cinéma Carlton et se terminera justement le 16 novembre, toujours au Carlton. Alors, les jours qui précèdent le festival sont des jours à la fois remplis d'angoisse, d'espoir, de rêve. Oh, l'angoisse, est-ce que tous les films seront là? Est-ce que on aura tout fait techniquement et aussi pour la vente des billets? Par exemple aussi, on aura rendu hommage à tous nos bienfaiteurs. Et puis, bien sûr, l'espoir que vous viendrez, l'espoir de partager avec vous plein de bons sentiments et de discuter. C'est ça, c'est le rêve aussi d'attirer d'autres personnes qui pourront venir et partager cette passion. Alors, comme je suis, comme vous pouvez voir, assez stressée, de temps en temps, je viendrai, selon mon inspiration, vous parler de quelques films que 5 programmateurs, en fait, dont je faisais partie, ont choisi pour vous. Et merci à ces programmateurs qui ont eu un goût extrêmement raffiné aussi pour ces films. Alors, à très bientôt, je vous dis, et bon cinéma.
Et oui, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter un autre de mes coups de cœur, On sera heureux, de Léa Poule. Et oui, qui nous présente un parcours douloureux des réfugiés queer, un film qui est assez problématique dans certains milieux, il faut bien le dire. Un film à voir absolument le samedi 15 novembre à 18h15. Et On sera heureux, c'est le nouveau film de Léa Poule, d'après un scénario original de Michel-Marc Bouchard, qui retrace le périple semé d'embûches de Reza, un Italien homosexuel qui fuit son pays, où il risque la peine de mort, et de Sahad, son amoureux rencontré durant l'exil. C'est un peu le même scénario pour certains Africains, queer, homosexuels, qui doivent s'exiler, souvent, pour vivre leur sexualité, leur identité sexuelle. Donc la réalisatrice Léa Poule et le dramaturge parlent de leur volonté de montrer le parcours du combattant des réfugiés queer, souvent invisible, et de confronter le public aux dures réalités de l'immigration, où même l'orientation sexuelle passe dans le tordeur de la bureaucratie. Léa Poule et Michel-Marc Bouchard reviennent également sur les défis du tournage. Plusieurs comédiens ont refusé d'auditionner en raison de convictions religieuses ou par peur de réaction de leur entourage. Par mesure de prudence, le tournage s'est déroulé dans la plus grande discrétion au Maroc. La réalisatrice explique que la liberté québécoise est cause d'abord un choc à ceux et celles qui ont vécu dans l'interdit toute leur vie. Mais elle rappelle qu'il faut redoubler de prudence car ses acquis ne sont pas si solides que ça. Rencontre avec l'équipe, On sera heureux, un film qui sera projeté, je vous rappelle, le samedi 15 novembre à 18h15 au cinéma Carlton, près du métro Collège. J'ai une paire de billets. À la première personne qui m'écrit à popourri@cut.fm. Et n'oubliez pas de faire un don à Popourri Show, la seule et unique émission en langue française sur CUTFM, 40 ans déjà. Allez sur le site www.cut.fm et cliquez sur Donate. Ensemble, célébrons le cinéma et la langue française. Bonne annonce et juste après, un entretien avec Léa Poult.
Monsieur Mohammadi a fui l'Iran. Il a, comme des milliers d'autres réfugiés, transité par la Turquie jusqu'à débarquer clandestinement dans le port de Montréal.
Vous allez faire une demande d'asile, OK?
Pas d'empreinte, pas d'identité.
Vous savez, ça repousse des empreintes.
Si vous vous comportez comme faux, tout va bien aller.
L'association va payer les premiers mois.
Monsieur Reza Mohammadi demande l'asile au Canada dans le cas de menaces qui planent sur lui en raison de son orientation sexuelle.
Ça fait-il longtemps que vous êtes ici?
Plusieurs mois, oui.
Bienvenue au Québec.
Aux yeux de la loi, vous n'existez pas. Ici, leur boulot, c'est pas d'accepter les immigrants. C'est plutôt le contraire.
Vous allez nous suivre, on a un mandat de déportation.
Il a fait quoi? Fais-le!
Ils ont voulu l'arrêter, il s'est enfui.
Héberger quelqu'un, c'est un crime.
S'il vous plaît,
madame
Price!
Ouais, toujours l'attaché de la ministre. I think I found someone that could help you.
J'aime bien ce que vous portez.
C'est classe.
Non.
Pourquoi t'es gentil comme ça?
Saad, je te présente Jeanne.
Attends, t'as fait géographie, mais tu sais pas où se trouvent les Seychelles.
Pourquoi est-ce que t'as souvent l'esprit ailleurs? Tu as mal du pays. Là-bas, t'as deux choix. Tu t'effaces et tu fais tout pour que rien paraisse. Et tu finis en prison.
C'est Reza Mohammadi. Il y a 6 semaines, il a échappé à sa déportation. Lui, c'est son petit ami. Je sais pas ce qu'il veut, mais...
Pourquoi tu m'as rien demandé? J'ai fait quelque chose de mal. Ma femme de ménage en sait plus sur toi que moi j'en sais.
Je comprends pas qu'est-ce qui se passe.
Reza va être déporté au plus tard ce soir.
Je te demande de me faire rencontrer ta ministre une dernière fois.
Ton nom de famille, c'est quoi encore?
Parce que si on fait rien, Reza, après qu'on l'aura bien fouetté, on va l'accrocher à une grue et on va le laisser mourir au milieu de la place.
Je vais perdre ma job.
Je te parle de quelqu'un qui va se faire pendre!
Mon cher Habibi, je pense à toi chaque jour et je t'aimerai toujours.
Je suis Léa Poul et je suis cinéaste depuis bientôt 40 ans.
Pas d'empreinte, pas d'identité.
Vous savez, ça repousse des empreintes.
C'est donc l'histoire de deux jeunes immigrants qui, à cause de leur orientation sexuelle, doivent quitter leur pays et s'essayent de s'installer au Québec avec tout ce que ça comporte.
Ces gens-là qui demandent à avoir une terre d'accueil sont déjà, d'une certaine façon, en exil chez eux. Ils sont déjà des sans-papiers affectifs, je dirais.
Bon, moi, je pense que c'est un film vraiment important à aller voir, surtout pour les jeunes, parce qu'on pense qu'il y a des droits qui sont acquis, que le travail a été fait, que la communauté homosexuelle est protégée, que les femmes sont protégées, les acquis sont là. Alors que cette histoire nous dit non, c'est ici vous êtes bien, mais ailleurs c'est encore un combat de tous les jours.
Ça fait-il longtemps que vous êtes ici?
Plusieurs mois, oui.
Bienvenue au Québec.
Donc, mon nom c'est Alexandre Landry. Je suis comédien dans le film On sera heureux. En fait, mon personnage tombe follement amoureux de Saad, le personnage principal. Souvent, on dit l'amour rend aveugle. Ben, lui, c'est exactement ça.
J'aime bien ce que vous portez.
C'est classe, non?
Pourquoi t'es gentil comme ça?
Non, ce que je trouve formidable, c'est qu'on a pu faire ce film en partenariat avec le Luxembourg et le Maroc. Moi, j'adore voyager, j'adore découvrir d'autres équipes, de connaître leur cinématographie aussi. Oui, c'est aussi complexe parce que il faut découvrir des nouvelles équipes qu'on connaît pas.
Donc, le clash des cultures, puis la façon qu'on fait le cinéma à travers le monde est tellement différent, là. C'est incroyable. Parce qu'en fait, c'est juste un outil, le cinéma. C'est une façon de pouvoir s'exprimer puis exprimer une vision du monde.
Est-ce que t'as souvent l'esprit ailleurs? Le mal du pays? Là-bas, t'as deux choix.
Travailler avec Léa Poul, ça a été, premièrement, un véritable bonheur. Je crois que j'ai eu beaucoup d'expérience en cinéma, mais cette fois-ci, la collégialité a été beaucoup plus naturelle.
Ce qui me plaît chez Léa Poul, c'est sa façon d'observer le monde, puis de donner une ligne, puis une perception, sa perception à elle. Elle l'offre vraiment dans ses films.
Vous allez nous suivre, on a un mandat de déportation.
Il a fait quoi?
Oui, pour moi, c'est un honneur extraordinaire de pouvoir ouvrir le Festival Cinémania le 4 novembre. Puis aussi, le film sort en salle le 7 novembre.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes. 35 nationalités. 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
De 11h à 13h, Pot-pourri Show sur CUT 89,5 FM Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Bonjour, ici Peter Biraud, correspondant spécial Pot-pourri Show. CIUT FM and Pot-pourri Show offer the kind of wide-ranging coverage of the important cultural, social, and political issues of our time, not available on any other broadcast. Ce type de diffusion a besoin de votre soutien. Je suis tellement fier de faire partie de cette émission stimulante. Alors, je vous invite à aider Pot-pourri Show à rester en onde et à nous écouter chaque dimanche sur CIUT FM.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festiv'Ébène, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Pot-pourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc. Quoi de neuf? Les cafés du Créfaux. Eh oui, nos amis du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le Créfaux, ont le plaisir de vous présenter la 5e saison. Quoi de neuf? Les cafés du Créfaux. Avec la soif d'apprendre, un membre du Créfaux s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette 5e saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf, les cafés du Créfaux. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur oisi.utoronto.ca/fr/Créfaux ou tout simplement popourichaud.com.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Potpourri Show et priseparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur potpourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur priseparole.ca.
Qu'est-ce qui vous amène ici, Monsieur Tremblay?
Quand j'ai appelé pour prendre rendez-vous, ça allait pas vraiment bien. Est-ce que tu peux commencer par les cages des petits, s'il te plaît?
On dirait que j'ai de la misère à me faire donner des ordres, comme... Pouvez-vous commencer à décrire pourquoi?
C'est que...
Je promène les chiens des voisins, c'est une job de petite fille de 9 ans.
C'est un chenil, Eugène.
Les températures globales augmentent sans arrêt.
Ça marche pas vraiment.
Ça provoque toutes sortes de catastrophes naturelles.
My name is Tina. How may I help you? Is everything okay with the lamp?
This is great customer service.
Are you like an AI or something?
Je parle avec une femme au téléphone depuis quelque temps. On a de très belles conversations.
Hostie que t'es bizarre.
On va assister à des choses qu'on peut même pas imaginer. Des guerres civiles pour les ressources, nos systèmes vont s'effondrer. C'est déjà commencé, là. Fait qu'en gros, c'est ça, là.
Ça va bien. C'est pas... Si je veux pas créer de malaise ou être trop déprimant.
Qu'est-ce qu'elle fait ici, au juste?
Je ne parle pas de français, I'm sorry.
Non, that's okay. Quand je ne dors pas, la nuit se
traîne, Rantina! La nuit non finit.
Arrêtez!
Son
mari, c'est tout, c'est
calé. La nuit non finit.
Blonde, t'avais-tu resté longtemps? C'est quoi l'affaire? Je suis en train de me faire rejeter par un quarantenaire neuroatypique?
You
really have everything to be happy.
When you choose a path, you don't get to see the other ones.
Je me sens bien ici.
Is this the end?
I really don't know.
Et oui, c'était la bande-annonce du film Amour Apocalypse, un film de la réalisatrice québécoise Anne Aymon, sorti en août 2025. Il s'agit d'une comédie romantique qui mélange drame futuriste et sentiments modernes. Film à voir absolument le vendredi 14 novembre à 21h au cinéma Carlton. Une paire de billets à ceux et celles qui m'écrivent immédiatement. Si vous êtes surtout donateur, donatrice, écrivez-moi à popourri@cut.fm. Bonne chance. Un autre film coup de cœur de l'équipe, c'est Dans la peau de Cyrano, un film de Jennifer De Volder qui sera projeté le dimanche 16 novembre à 13h au cinéma Carlton toujours. Dans la peau de Cyrano, un film sorti en 2024 de genre comédie dramatique réalisé par Jennifer De Volder. Il raconte l'histoire de Colin, un jeune garçon bègue qui, grâce au théâtre et à l'aide d'un professeur, trouve le courage de surmonter ses peurs. Le film met en vedette Joachim Arseguel et José Garcia, sorti au Québec le 28 mars de cette année et en France sous le titre « Le Panache ». Après une pause, Jennifer De Volder précise avec énormément d'affection dans la voix « Je voyais Colin comme un petit oscillon coincé d'un peu partout, un petit oscillon qui tombe du nid mais qui parvient à prendre sa place et à prendre la parole ». C'est vraiment une histoire sur le fait de prendre la parole et d'assumer cette parole. Dans la peau de Cyrano, un film de Jennifer De Volder, qui sera projeté le dimanche 16 novembre à 13h au cinéma Carlton. Une présentation de Ciné Franco. D'ailleurs, découvrez tous les films à l'affiche de la 28e édition de Ciné Franco sur www.cinefranco.com. De très très beaux films, mesdames, messieurs, à voir absolument. On vous retrouve nombreux, ou allez sur popourishow.com. Des billets gratuits pour les auditeurs, les bénévoles, mais aussi et surtout les donateurs, donatrices de cette campagne de financement au mois de novembre. Allez, écrivez-moi popourri@cut.fm. Bonne annonce.
Installez-vous vite. Alors, je suis monsieur Deverso et je m'occupe aussi de l'atelier théâtre. Ça vous donnera l'occasion de briller devant vos camarades et sur scène. À nous.
Je m'appelle
Colin. Il s'appelle Colin.
Enchanté, Colin. Au théâtre, il faut parfois réfléchir avec le ventre, le centre des émotions.
Il y a des poulets dans la cour.
Nous allons étudier Cyrano de Bergerac.
C'est un rock, c'est un pic, c'est un cap.
Non, je suis folle à présent.
Merci, Cyrano.
Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative?
Respire, Colin. C'est pas grave si les mots sortent pas dans l'ordre. N'oublie pas, Cyrano parle à la femme dont il est éperdument amoureux. Alors vas-y, tout simplement, doucement.
Si je veillais, ce serait pour ralentir le temps. Comme ça, je deviens pas un adulte.
Ah, bien, Colin.
Bah, tu vois, tu t'ouvres.
Je te comprends pas, Colin. Le psy, c'est non. L'orthophoniste, c'est non. J'entends ce que tu me dis. On a déjà tout essayé mille fois, mais... Enfin, du théâtre.
On a tous ici quelque chose qui nous gêne, qui nous complexe. Si on assume vraiment qui on est, eh bien, plus personne ne peut s'en servir comme une arme.
J'ai bien réfléchi. Je vais jouer Roxane.
Monsieur de Varso, vous avez perturbé les autres classes et montré aux élèves qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient.
Vous souhaitez toujours votre titularisation, n'est-ce pas?
Les préjugés.
Les lâchetés. Jamais, jamais.
Je me bats, je me bats.
Sur scène, tu peux être qui tu veux, même toi-même.
Et oui, ce dimanche, à Popourri Show, en partenariat avec Ciné Franco, présente la 28e édition du Festival Grand Public, qui se tiendra du 7 au 16 novembre 2025 au cinéma Carlton, au cœur de la ville de Toronto. Cette année, le thème « Les facettes de l'humanité » prend forme grâce aux liens de visionnage que nous font parvenir les distributeurs de France, de Suisse, de Belgique, du Québec, de l'Ontario et d'ailleurs. Du 7 au 16 novembre, découvrez nos coups de cœur sur CUT 89.5 FM et sur nos réseaux sociaux. Participez, devenez membre de l'unique et l'incontournable rendez-vous de la francophonie et courez la chance de gagner des places au Festival Ciné Franco. Faites un don à Popourri Show en direct sur www.cut.fm et cliquez sur « Donate ». Et veuillez nous écrire immédiatement à popourri@cut.fm. Aidez-nous à garder l'antenne. Du 7 au 16 novembre, célébrons le 7e art et la langue française avec Popourri Show et la 28e édition de Ciné Franco, plus vibrante que jamais. Et je vous donne rendez-vous lundi 10 novembre à 18h pour la projection du film La Pivoleuse, un film dramatique français réalisé par Robert Guédiguian, sorti en 2025. La Pivoleuse, c'est le nom du magasin de musique où Maria a loué un piano pour son petit-fils Nicolas. Or, la sexagénaire qui fait les courses et le ménage pour des personnes âgées n'en a pas les moyens, pas plus que son mari Bruno, qui reçoit une maigre pension et flambe le tout en jouant au bistrot du coin. Alors, que va faire cette vieille dame pour payer les cours du piano de son petit-fils? La réponse à retrouver demain, 10 novembre à 18h au Cinéma Carlton. La Pivoleuse, une présentation de Ciné Franco. Bonne annonce.
Votre courrier.
Et les bulots, ils sont où?
Ben, ils sont là. Vous pourriez me signer des chèques d'avance, je me suis servi du dernier. J'ai fait toutes les courses.
Merci, ma belle.
Je mets la monnaie dans le compotier. Combien il reste sur le compte?
Il n'y a plus rien.
Tu as recommencé à jouer?
c'est sûr, il va l'avoir son concours.
Arrête, tous les autres élèves, ils prennent en plus des cours particuliers, alors on ne pourra jamais se payer ça.
J'ai appelé son professeur de piano au conservatoire. Il est d'accord pour lui donner des cours particuliers.
Mais tu le payes comment?
J'ai pris du travail en plus.
Oh, tiens.
Bonjour, papa.
Tu veux prendre l'apéritif?
J'ai l'habitude de m'occuper de ses affaires. Est-ce que vous pouvez me dire pour qui il loue ce piano?
Oui, bien sûr.
Madame Jourdan?
C'est moi.
Ce que je veux, c'est savoir pourquoi mon père loue ce piano pour vous.
T'as recommencé comme avant?
C'est pour le petit.
Qu'est-ce que tu lui donnes, à part le piano?
Je vous demande de ne pas porter plainte. On remboursera tout à votre père.
Cette femme, faut l'empêcher de nuire. Peut-être qu'elle fait ça chez d'autres vieux.
Tu mets plus les pieds chez Moreau. Et toi, remplacer, raconte n'importe quoi.
J'aimerais que tu arrêtes de travailler chez les hommes qui sont seuls.
C'est vraiment bête ce que tu dis. Mais ça me touche beaucoup.
Et votre petit-fils, le piano, il progresse?
Oui, oui, oui. J'y prends des cours particuliers à Avenue du Prado.
Il est jeune. Il a le temps.
Et c'est ici que prend fin notre voyage intercontinental. Émission spéciale aujourd'hui en hommage à notre ami, professeur, grand journaliste, Pierre Dufaux, qui n'est plus de ce monde. Et oui, un immense merci à tous ceux et celles qui ont fait un don à ce jour. Nous avons amassé, tenez-vous bien, près de 14 000 dollars. Mille merci. Et particulièrement à nos gros donateurs qui méritent une médaille en or. Entre autres, mademoiselle Marie-Françoise Rapougeau, à qui nous saluons chaleureusement. Allez sur notre site www.cut.fm. Faites un don, cliquez sur Donate et indiquez Potpourri Show, votre émission, la seule émission en langue française. Toutes nos félicitations à nos partenaires et particulièrement à madame Fété Ingira Batoiré Guillaume Pi, directrice générale de Sophie Franc et auteure. Je vous rappelle qu'elle a été honorée par le prix de la ministre des Affaires francophones de l'Ontario récemment, Caroline Mulroney. Infatigable. Et oui, elle se dévoue pour les droits des immigrants francophones, des femmes immigrantes francophones. Cette dernière a été saluée pour son engagement justement indéfectible envers les femmes et les familles immigrantes francophones du Niagara. Le prix décerné par la ministre des Affaires francophones est le retour d'une reconnaissance sous une nouvelle version qui n'avait pas été décernée depuis plusieurs années. Merci à DJ Devera et tous ceux et celles qui sont dans nos studios à Toronto. Merci à Marceline, bon courage et félicitations à tous les bénévoles de Ciné Franco et les gagnants, les gagnantes, entre autres Jean Jubeneau. J'espère que vous passerez un moment inoubliable et mémorable à Ciné Franco. Et aussi, on fait de très belles rencontres hein, à Ciné Franco. Eh oui. De la communication, merci pour ces avant-goûts des chansons de Noël de fin d'année. Et tous nos partenaires et médias qui ont alimenté l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche, une très belle semaine. Je vous laisse avec un air du Séga mauricien, eh oui, dans l'océan Indien, saluant ainsi notre compatriote Natacha Apana, grande gagnante du prix Femina 2025 qu'elle a remporté cette semaine. Ciao et à bientôt.
DJ Alan 416 Chaussard Sive.
Chapeau la paille, moto, toi, ton père, tata, tata, tata.
là-bas, ton osmose salade, on va là-bas. On va là-bas, on va là-bas. On va là-bas, ton osmose salade, on va là-bas.
La baignée aux enfants. Il n'arrive pas d'autres tombés, oui, chacun finit un jour travail. Chacun finit un jour travail, mais personne n'a pas pris des mois. Premiers enfants, avocats, deuxièmes enfants, l'autoctrice. Troisièmes enfants, la police, dernier, la travail, politique. Écoute, tu dis, tu es au camouin d'espérer, j'habite bien à moi. Mon fils gagne la honte avec lui, mais j'en vais à mon léguer, l'hiver mal. Mon bien, mon léguer, la moelle, moi, l'eau de la case d'offrée. En arrivant au docteur, je lui donne moi, c'était l'opéra. Et moi, dégagez, moi, ça, dans mon mari a pas fini. Il est béni, lolo.
Madame Polo, la veille à Dinatem, j'ai voulu battre. les vais nous guetter. Pousse les tomatanga, tu les vais nous guetter. Pousse les tomatanga, tu les vais nous guetter. Pousse les tomatanga, tu les vais nous guetter. On a l'ose, on a balé, c'est qui m'a imagé. Ça qui m'a imagé, il m'a imagé dans mon labé.
Charles Roger Paul, mission dans la danse. Galoubé, Bini, Tambour, Kidja, Diazo, et Borsoré.